Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Décryptage et l'avenir incertain du Groenland. L'inquiétude qui monte au Danemark face aux velléités du président américain de faire main basse par la force, s'il le faut, sur le Groenland. Cette immense île arctique convoitée de longue date par Donald Trump et qui, malgré la levée de boucliers des Groenlandais, affirme que les États-Unis obtiendront bel et bien le Groenland et que Copenhague finira par céder. De quoi mettre en alerte également l'Union européenne qui sent ainsi menacée par son grand allié américain sur ses propres frontières. Alors que le Danemark vient de voter une enveloppe de 2 milliards d'euros pour renforcer la sécurité dans l'Arctique, certains pays européens, dont la France, n'excluent pas l'envoi de troupes au Groenland. La bataille pour le Groenland se jouera-t-elle sur les terres glacées de l'île ou bien sur le front commercial? On en parle ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, Guillaume Lascon-Jarias, historien militaire, professeur associé à Sorbonne Université. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux sur RFI. Jean-Dominique Giuliani, est-ce que l'Europe peut très sérieusement s'inquiéter de ses ambitions, pour le moins très agressives, de Donald Trump sur le Groenland?
Pour l'instant, ce sont des déclarations verbales, si je puis dire.
Mais répétées.
Répétées, ça fait une centaine d'années qu'elles sont répétées d'ailleurs. Elles ont commencé, j'ai vérifié, en 1910, se sont poursuivies en 1947, et deux fois dans les discours de Donald Trump. Donc pourquoi, on va en parler, j'imagine, il y a un intérêt stratégique important pour les États-Unis, mais aussi parce qu'il est dans une phase, en ce début de mandat, où il pousse le bouchon très loin. Les observateurs dont je suis ont tendance à penser que c'est pour avoir une négociation plutôt que d'avoir recours à la force, puisque par ailleurs, il a promis aux citoyens américains qu'il n'enverrait pas de troupes à l'étranger. Donc rien n'est sûr, évidemment, mais vous avez remarqué que la réaction de l'Union européenne, elle est discrète, solidaire et plutôt sereine.
Donc pas question de s'inquiéter outre mesure, si on vous entend bien, Jean-Dominique Giuliani. C'est pas une crise sérieuse.
Il faut toujours s'inquiéter de cela. La crise n'est pas là. Elle pourrait venir en cas de dérapage ou d'insistance ou de mesures coercitives. Mais pour l'instant, on sent, la première ministre danoise était à Paris hier, elle a rencontré le président, elle a fait un tour d'Europe, tout le monde a l'air relativement serein et solidaire. C'est-à-dire que tout dépendra aussi de l'opinion des Groenlandais. Ça, c'est un principe absolu, politique et juridique qu'on respecte en Europe. Pour l'instant, à 85%, ils ne veulent pas rejoindre le territoire américain. Donc, s'il faut mettre les moyens pour les convaincre de rester dans le statu quo qu'ils semblent apprécier, le Danemark l'a déjà fait et l'Union européenne, vraisemblablement, le fera.
Et on y reviendra. Guillaume Lascon-Jarias, comment expliquer une telle convoitise du président américain sur le Groenland, lui qui met en avant une nécessité absolue, dit-il, pour la sécurité nationale des États-Unis?
Elle est double. Alors, il y a d'abord le principe, effectivement, stratégique. C'est-à-dire que le Groenland, depuis, effectivement, la guerre froide, c'est devenu l'avant-poste de la capacité pour les Américains de surveiller ce qu'il se faisait du côté de l'Union soviétique autrefois, de la Russie aujourd'hui. Par la courbure de la Terre, en fait, c'est l'endroit aussi par lequel les missiles russes potentiellement peuvent transiter et atteindre le territoire américain. Ça explique aussi que c'est au Groenland qu'on trouve, dans la base notamment de Thule, les postes, ce qu'on appelle le Early Warning System, c'est-à-dire qui permet de surveiller justement l'arrivée d'un missile balistique.
Les Américains qui, je le précise, ont donc une base au Groenland depuis 80 ans déjà. Ils sont déjà là.
Oui, ils ont effectivement une base, la base de Pitufik, sur laquelle d'ailleurs, il n'y a pas que ce système d'alerte avancée. Il y a aussi, tout simplement, des pistes d'aviation, la capacité aussi à pouvoir se projeter. Et il ne faut pas oublier que pendant la guerre froide, justement, le lieu du Groenland, c'était de surveiller le trafic en Atlantique Nord, par lequel sortaient les sous-marins nucléaires russes, et qui permettait justement de contrôler ce qu'on appelle s'appelait le JUK, donc Groenland, Islande, UK, donc United Kingdom, Royaume-Uni.
Mais est-ce à ce point une nécessité absolue, comme le fait valoir le président américain ?
Alors, c'est la deuxième partie de la réponse. D'une manière stratégique, peut-être. D'une manière économique, sans doute. Il y a un chiffre qui est assez intéressant. Sur ce qu'on appelle les matériaux critiques et dits stratégiques, donc il y en a 34, il y en a 25 qu'on trouve, non pas simplement au Groenland, mais en réalité dans l'Arctique. Et donc, tout de suite, ça devient extrêmement intéressant.
Là, vous parlez des richesses minières,
richesses naturelles
et pétrolières, hein, également. Alors, du Groenland.
Pétrolières, gazières, minérales, en or, en diamant, en zinc. C'est vraiment... mais sauf que c'est un endroit qui est aussi protégé. D'ailleurs, vous avez, et c'est aussi un des derniers endroits où il y avait une forme de coopération internationale et d'entente internationale. C'est-à-dire que le lieu de l'Arctique a été finalement quelque chose d'assez tendu pendant toute la guerre froide. Ça a été aussi le lieu où on a pu expérimenter une coopération multilatérale, finalement jusqu'en 2022. 2022 parce que c'est le moment où on a décidé de faire payer aux Russes leur aventurisme militaire en Ukraine. Mais c'est au Conseil de l'Arctique, on y trouve aussi des participants extérieurs. Et aujourd'hui, un des grands participants extérieurs, c'est la Chine. Et donc, en fait, finalement, ce Conseil de l'Arctique concentre tout un tas de problématiques où, hélas, les interrogations des Groenlandais eux-mêmes ou des peuples autochtones est très souvent laissée, je pense, en arrière.
Jean-Dominique Giuliani, il y a donc cette double détente dans l'esprit américain, à la fois la stratégie et l'économie. C'est beaucoup de richesses pour le Groenland.
Bien sûr, et dans l'Arctique en général, avec le réchauffement, ça va ouvrir aussi des voies navigables. Et on voit bien que les Russes tentent de s'y imposer par la force. Il y a un programme canadien, un programme américain construction de brise-glace, etc. Ils sont un peu en retard sur la Russie pour tout ça. Et donc, la présence de la Chine, y compris comme observateur au Conseil de l'Arctique, montre qu'il y a un intérêt économique profond. Et là, il y a vraiment une opposition entre l'Union européenne et les Américains, parce que, comme le rappelait notre invité, le Groenland est protégé à la demande de sa population, majoritairement inuite d'ailleurs, entérinée par le Danemark, et on sait que c'est une politique qui est à laquelle l'Union européenne est très favorable. Et donc l'Union européenne, dans cette affaire, dans ce bras de force, ce bras de fer, peut représenter pour la population groenlandaise une garantie de ne pas sacrifier l'environnement au Groenland.
Justement, quelle doit être la réponse de l'Europe ? Vous venez d'initier cette question. Il y a le soutien, la solidarité qui est due au peuple groenlandais. Est-ce qu'il faut également prévoir du répondant côté militaire ? On a vu hier que certains pays européens, donc la France, qui ont dit ne pas exclure l'envoi de troupes pour contribuer à la stabilité de la région.
C'est toute la problématique des relations transatlantiques sur les questions militaires. Le reproche américain, qui est assez justifié, c'est que l'Europe a désarmé, en quelque sorte, ces dernières années, et qu'elle doit apprendre à avoir sa propre sécurité. C'est une thèse que la France défend depuis longtemps, d'ailleurs. Et l'Arctique, dans cette question-là, c'est aussi important pour les Américains sur le plan stratégique, on l'a dit, mais ça mérite aussi des efforts des Européens qui, maintenant, avec la Finlande, la Suède, la Norvège qui est associée, le Royaume-Uni qui a quand même des relations avec l'Union européenne, doit faire des efforts pour investir l'Arctique à sa manière, d'ailleurs. Protectrice de l'environnement, mais aussi militaire, avec une présence stratégique. Et comme toujours avec Donald Trump, il est excessif, vulgaire, brutal, mais il n'a pas tort sur tout. Et donc nous devons apprendre à réinvestir l'Arctique. Nous avions un ex-premier ministre, Michel Rocard, qui avait sonné, qui a même écrit un livre sur le sujet, qui était ambassadeur représentant la France pour ces questions-là, et qui n'a cessé d'appeler l'Union européenne, les Européens, à se préoccuper, pour des raisons environnementales, mais aussi stratégiques, de l'avenir de l'Arctique et d'ailleurs de l'Antarctique aussi.
Guillaume Lascanjarias, le Danemark va justement dépenser 2 milliards d'euros pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. 2 milliards, pour quoi faire concrètement ?
Tout simplement déjà pour réinvestir un territoire que effectivement on considère comme étant depuis trop longtemps un petit peu délaissé de la part des Européens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors dans le package tel qu'il a été annoncé, vous avez de la surveillance, vous avez des drones, vous avez peut-être des unités qui vont s'entraîner à ce qu'on appelle l'Arctic Warfare, c'est-à-dire la capacité à combattre dans des températures extrêmes. Tant de choses que finalement, là encore, les Européens font. Ils le font dans le cadre généralement de l'OTAN. Et c'est bien là d'ailleurs un des sujets sur lequel je tiens à rebondir. Jean-Dominique Giuliani l'a précisé. C'est derrière cette question de l'Arctique, c'est tout le lien transatlantique au travers de l'OTAN qui est interrogé. On se retrouve dans cette situation un petit peu inédite où le grand parrain, finalement, qui est au sein de l'OTAN, intime l'ordre à un de ses alliés, lequel allié est quand même plutôt un bon suivant un bon suivant de Washington, de cette fois lui céder une partie de son territoire, ce qui est très largement vu comme étant une forme de provocation, comme aussi un effet de surprise. Je pense que d'ailleurs le Danemark vit ça comme étant une forme de choc. Je rappellerai quand même...
Pas que le Danemark d'ailleurs. Hein.
Non, pas que le Danemark, mais le Danemark peut-être plus que les autres, parce que il y a deux éléments au Danemark qui sont assez intéressants à considérer. D'abord, c'est que sur l'engagement en Afghanistan, c'est au prorata des effectifs engagés le pays qui a perdu le plus d'hommes au combat en Afghanistan, dans le cadre de la coalition de l'ISAF. Et puis la deuxième chose, c'est que dans sa politique d'intégration à l'Union européenne, le Danemark avait bien fait attention à ne pas trop investir dans les aspects de défense européenne. C'est-à-dire, ils avaient une option, ce qu'on appelle de opt-out. Et, par exemple, jusqu'à très récemment, en fait, jusqu'à la crise ukrainienne, ils s'étaient bien gardés de réfléchir sur les questions d'autonomie stratégique, de programme européen de défense, d'intervention européenne, etc. Et là, je veux dire, on a l'impression que le bas blesse, ce que l'Union européenne fait, aux côtés de l'OTAN et en lien avec l'OTAN, aurait mérité d'être réinvesti un peu plus tôt.
Jean-Dominique Giuliani, est-ce que même, si comme vous l'expliquez, c'est pas demain que les soldats américains vont envahir le Groenland pour le prendre par la force, est-ce que ces menaces aujourd'hui peuvent justement servir d'électrochoc pour que l'Union s'organise
oui, c'est
un peu plus.
C'est un électrochoc de plus, surtout, n'est-ce pas ? Parce que les annonces en matière économique, industrielle et autres constituent autant d'électrochocs qui vont contribuer à accentuer le réveil européen dans la quête d'une autonomie stratégique que d'ailleurs la France réclame depuis longtemps, avec des impératifs économiques. On va en parler dès la semaine prochaine. Il y a tout un programme européen de relance de la croissance, etc., qui va être proposé, mais aussi sur le plan militaire, où là, nous avons déjà un projet de règlement qui est discuté entre les États membres et qui va aller au Parlement européen pour essayer d'accélérer la production d'équipements militaires dont l'Europe est démunie aujourd'hui, de créer une sorte de marché intérieur plus facile, bien que ça reste de la souveraineté des États. C'est donc assez complexe. Et ce qui est aussi complexe, c'est les relations entre l'OTAN et l'Union européenne qui se sont énormément améliorées. C'est-à-dire que l'Union européenne finance des programmes de l'OTAN.
Ça, c'est à la faveur de la crise en Ukraine hein,
oui.
Que l'Europe s'est réveillée.
Et puis, il y a la question de fournir des armes à l'Ukraine aussi et de fournir une défense. On a déjà, sur le plan financier, l'Union européenne a davantage contribué que les États-Unis à la résistance de l'Ukraine, mais sur le plan militaire, non. C'était toujours le soutien américain qui était déterminant pour la résistance de l'Ukraine.
L'Europe devra son sursaut aux menaces et au retour de Donald Trump.
Écoutez, on vit en Europe... on critique beaucoup l'Europe en interne, elle fait toujours autant rêver à l'extérieur, tout le monde veut la rejoindre, il doit bien y avoir des raisons, et parmi les raisons, il y a qu'on y vit bien, confortablement, avec un état de droit, avec, regardez ce qui se passe en Serbie aujourd'hui. Donc les étudiants sont dans la rue parce qu'ils réclament l'état de droit, version européenne, mais aussi, pour le Groenland, des soutiens économiques et financiers. Le Groenland est, en termes juridiques, un pays, un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Il a choisi de ne pas en être membre, par référendum, en 1985, mais il a un statut d'autonomie renforcé au sein du Danemark, et il a vis-à-vis de l'Union européenne des accords commerciaux, toute la pêche essentielle pour les Groenlandais est écoulée dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne.
Et fait partie également, le Groenland, des accords de défense européens.
Bien sûr.
On touche au Groenland, l'Europe doit se mobiliser immédiatement.
Depuis, comme c'était très bien expliqué, depuis le retour du Danemark dans la politique étrangère et de sécurité commune par référendum.
Alors, on parlait d'électrochoc, Guillaume Lasconjarias. La première question qui pourrait avancer, c'est celle, bien sûr, de cette défense européenne qu'appelle de ses voeux, notamment le président Macron, depuis plusieurs années.
Alors, ce n'est pas la défense européenne, c'est l'autonomie stratégique qu'il ne faut pas non plus opposer à la défense européenne. En fait, souvent, trop souvent, on oppose d'un côté la défense de l'Europe à l'Europe de la défense. Plus qu'un jeu de mots, c'est aussi une réalité, comme si les deux finalement s'opposaient, alors qu'il y a beaucoup plus de points communs que de divergences. Et ce qui est assez intéressant, et si on reprend en fait cet antagonisme avec Trump, c'est finalement, c'est vous achetez de toute façon ce que je dis, en gros je vais faire ce deal, et en plus pour le faire, vous achèterez en plus du matériel américain. C'est-à-dire en fait on est doublement puni. Non seulement on est obligé de passer par pertes et profits sur ce qui est une question de notre souveraineté et finalement de notre autonomie, de notre capacité européenne à dire et à penser le monde, un espace ou un territoire de la norme. Et à côté de ça, eh bien, justement, même si on fait beaucoup d'efforts, eh bien, une grande majorité des États européens achètent encore sur étagère américain. C'est-à-dire qu'on se retrouve, et le Danemark, notamment, en fait partie. Donc, on se retrouve un peu dans cette situation inédite où on voudrait faire plus, mais en réalité, on ne s'en rend compte toujours trop tard. Et les Européens, là-dessus, ont perdu 4 années. Les 4 années de la présidence Biden, qui sont un petit peu passées par pertes et profits. Et c'est grandement dommage.
Et c'est ce qui pourrait changer maintenant, non ?
Ça aurait dû changer. En réalité, ça avait commencé à progresser à partir de 2016, quand on avait déjà vu la brutalité de Trump. Merkel l'avait souligné en 2017 de manière presque effarée. Qu'a-t-on fait de ces 4 années entre 2020 et 2024. On a oublié que, finalement, il y avait beaucoup plus de continuité entre Obama, Trump et Biden, et maintenant Trump 2, qu'on ne le pense, et je pense que les Européens, eh ben, il est peut-être temps qu'ils se réveillent.
Eh ben, au-delà de ce sursaut attendu à la faveur de cette crise avec les États-Unis, Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'il n'y a quand même pas un changement profond qui est en train de s'opérer dans la nature même de nos relations transatlantiques avec les États-Unis qui passent ainsi d'un statut de protecteur à celui qui serait source d'inquiétude ?
Comme ça a été très bien dit, les Américains, comme toutes les grandes nations, surtout les nations continentales, défendent d'abord leurs intérêts. Bon, et ils n'ont pas changé, comme vous l'avez fort bien dit. En revanche, l'Union européenne, elle, est en train de changer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été bâtie sur le principe cynique du rapport de force. C'était même l'inverse. Cette phase a été réussie, et maintenant elle doit apprendre à se défendre et à promouvoir ses intérêts. Et donc, ça a commencé. Contrairement à ce qu'on lit ici ou là, on n'est pas resté si naïf que ça. Sur le plan commercial, nous sommes une puissance commerciale supérieure à celle des États-Unis. Nous avons un marché unique supérieur au marché de consommation aux États-Unis. Donc, on apprend le rapport de force.
Voilà, et on continuera à parler de ce sursaut sur cette même antenne, sursaut espéré de l'Union européenne. Ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Merci également à Guillaume Lasconjarias, historien militaire, professeur associé à Sorbonne Université. J'associe à ces remerciements Éléonore Krenik à la cellule invitée et ce soir à la réalisation de Décryptage, Valentin Van Aert.